Les maudits sont sans importance. Sans importance. Sont sans importance. Les mots. Les mots. Les mots. Les mots sont sans importance. Les mots sans importance.
Bonjour, la diseuse de mots. Aujourd'hui, je vous propose un premier extrait du roman de Régent Ducharme, La vallée des avalés. Les enfants emmènent large. Ils peuvent dire pique-aimer, pique-pendre. Ils ont tous les droits. Entre 20 et 23 ans, on a toutes les lois, tout en même temps. Si on est doué, on les apprend. Si on n'est pas content, on se déprend, en se souvenant, en imaginant. Tout m'avale. Quand j'ai les yeux fermés, c'est par mon ventre que je suis avalée. C'est dans mon ventre que j'étouffe. Quand j'ai les yeux ouverts, c'est par ce que je vois que je suis avalée. C'est dans le ventre de ce que je vois que je suffoque. Je suis avalée par le fleuve trop grand, par le ciel trop haut, par les fleurs trop fragiles, par les papillons trop craintifs, par le visage trop beau de ma mère. Le visage de ma mère est beau pour rien. S'il était laid, il serait laid pour rien. Les visages, beaux ou laids, ne servent à rien. On regarde un visage, un papillon, une fleur, et ça nous travaille. Puis ça nous irrite. Si on se laisse faire, ça nous désespère. Il ne devrait pas y avoir de visages, de papillons, de fleurs. Que j'ai les yeux ouverts ou fermés, je suis englobée. Il n'y a plus assez d'air tout à coup. Mon cœur se serre, la peur me saisit. L'été, les arbres sont habillés. L'hiver, les arbres sont nus comme des vers. Ils disent que les morts mangent les pissenlits par la racine. Le jardinier a trouvé deux vieux tonneaux dans son grenier. Savez-vous ce qu'il en a fait? Il les a sciés en deux pour en faire quatre seaux. Il en a mis un sur la plage et trois dans le champ. Quand il pleut, la pluie reste prise dedans. Quand ils ont soif, les oiseaux s'arrêtent de voler et viennent y boire. Je suis seule et j'ai peur. Quand j'ai faim, je mange des pissenlits par la racine et ça se passe. Quand j'ai soif, je plonge mon visage dans l'un des seaux et j'aspire. Mes cheveux déboulent dans l'eau. J'aspire et ça se passe. Je n'ai plus soif. C'est comme si je n'avais jamais eu soif. On aimerait avoir aussi soif qu'il y a d'eau dans le fleuve, mais on boit un verre d'eau et on n'a plus soif. L'hiver, quand j'ai froid, je rentre et je mets mon beau chandail bleu. Je ressors, je recommence à jouer dans la neige et je n'ai plus froid. L'été, quand j'ai chaud, j'enlève ma robe. Ma robe ne me colle plus à la peau et je suis bien. Et je me mets à courir. On court dans le sable, on court, puis on a moins envie de courir. On est ennuyé de courir, on s'arrête, on s'assoit et on s'enterre les jambes. On se couche et on s'enterre tout le corps. Puis on est fatigué de jouer dans le sable. On ne sait plus quoi faire. On regarde tout autour comme si on cherchait. On regarde, on ne voit rien de bon. Si on fait attention quand on regarde comme ça, on s'aperçoit que ce qu'on regarde nous fait mal, qu'on est seul et qu'on a peur. On ne peut rien contre la solitude et la peur. Rien ne peut aider. La faim et la soif ont leurs pissenlits et leurs eaux de pluie. La solitude et la peur n'ont rien. Plus on essaie de les calmer, plus elles se démènent, plus elles crient, plus elles brûlent. L'azur s'écroule, les continents s'abîment. On reste dans le vide, seul. Je suis seule. Je n'ai qu'à me fermer les yeux pour m'en apercevoir. Quand on veut savoir où on est, on se ferme les yeux. On est là où on est quand on a les yeux fermés. On est dans le noir et dans le vide. Il y a ma mère, mon père, mon frère Christian, Constance Clore. Mais ils ne sont pas là où je suis quand j'ai les yeux fermés. Là où je suis quand j'ai les yeux fermés, il n'y a personne, il n'y a jamais que moi. Il ne faut pas s'occuper des autres, ils sont ailleurs. Quand je parle ou que je joue avec les autres, je sens bien qu'ils sont à l'extérieur, qu'ils ne peuvent pas entrer où je suis et que je ne peux pas entrer où ils sont. Je sais bien qu'aussitôt que leurs voix ne m'empêcheront plus d'entendre mon silence, la solitude et la peur me reprendront. Il ne faut pas s'occuper de ce qui arrive à la surface de la terre et à la surface de l'eau. Ça ne change rien à ce qui se passe dans le noir et dans le vide, là où on est. Il ne se passe rien dans le noir et dans le vide. Ça attend, tout le temps. Ça attend qu'on fasse quelque chose pour que ça se passe, pour en sortir. Les autres sont loin. Les autres, ça se sauve comme des papillons. Un papillon, c'est loin. Loin comme le firmament, même quand on le tient dans sa main. Il ne faut pas s'occuper des papillons. On souffre pour rien. Il n'y a que moi ici. Mon père est juif et ma mère catholique. La famille marche mal, ne roule pas sur des roulettes, n'est pas une famille dont le roulement est à billes. Quand ils se sont mariés, ils se sont mis d'accord sur une sorte de division des enfants qu'ils allaient avoir. Ils ont même signé un contrat à ce sujet, devant notaire et devant témoin. Je le sais, j'écoute par le trou de la serrure quand ils se querellent. D'après leurs arrangements, le premier rejeton va aux catholiques, le deuxième aux juifs, le troisième aux catholiques, le quatrième aux juifs, et ainsi de suite jusqu'au 31e. Premier rejeton, Christian est à Madame Enberg, et Madame Enberg l'emmène à la messe. Second et dernier rejeton, je suis à Monsieur Enberg, et Monsieur Enberg m'emmène à la synagogue. Ils nous ont. Ils sont sûrs qu'ils nous ont. Ils nous ont, ils nous gardent. Madame Enberg a Christian, et elle le garde. Monsieur Enberg m'a, et il me garde. J'ai mis du temps à comprendre ça. Ça n'a pas l'air difficile à comprendre, mais quand j'étais plus petite, je trouvais que ça ne tenait pas debout, que c'était impossible, que mes parents ne puissent pas s'aimer et nous aimer comme je les aimais. Monsieur Enberg voit d'un œil irrité son avoir joué avec l'avoir de Madame Enberg. Il est sur des charbons ardents quand Christian et moi jouons ensemble. Il pense que Madame Enberg se sert de Christian pour mettre le grappin sur moi, pour me séduire et me voler. Madame Enberg dit que je suis son enfant au même titre que Christian, qu'une mère a besoin de tous les enfants qu'elle a eus, qu'un petit garçon a besoin de sa petite sœur et qu'une petite fille a besoin de son grand frère. Je fais semblant de jouer le jeu que M. Enberg prétend que Mme Enberg joue. Ça fait enrager M. Enberg. Il tombe sur le dos de Mme Enberg. Il se querelle sans arrêt. Je les regarde faire en cachette. Je les regarde se crier à la figure. Je les regarde se haïr avec tout ce qu'il peut y avoir de laid dans leurs yeux et dans leur cœur. Plus ils se crient à la figure, plus ils se haïssent. Plus ils se haïssent, plus ils souffrent. Après un quart d'heure, ils se haïssent tellement que je peux les voir se tordre comme des vers dans le feu, que je peux sentir leurs dents grincer et leurs tempes battre. J'aime ça. Parfois, ça me fait tellement plaisir que je ne peux m'empêcher de rire. « Haïssez-vous, bande de bouffons! Faites-vous mal que je vous vois souffrir un peu! Tordez-vous un peu que je ris !» Ils ont envoyé Christian loin de moi. C'est tout un honneur. Ils l'ont mis dans une enveloppe et l'ont expédié à un camp de scoutisme. « Va faire des béas, Christian, loin de ta petite sœur vénéneuse !» Quand le temps des vacances arrive, c'est immanquable. Il faut qu'il y ait un de nous deux qui parte. Si je ne suis pas envoyée en tournée avec la chorale, Christian est envoyé dans un camp de scoutisme. Madame Enberg n'est pas d'accord. Laissez donc ces enfants tranquilles, espèce de fou. Monsieur Enberg, le maître des départs, ne veut rien savoir, tient son bout. Si tu n'envoies pas ton moutard faire des béats, j'envoie ma moutarde faire des gammes. Les voyages déforment la jeunesse, crie-t-elle. Les voyages forment la jeunesse, crie-t-il. Je ne suis qu'une fille. Enberg m'a, mais il n'est pas content de m'avoir. Il est jaloux de l'autre. Il aimerait bien mieux avoir Christian. Une fille, ce n'est pas bon, ça ne vaut rien. Ça ne me fait rien. Qu'il s'arrange. J'attends que Christian revienne. Il ne fait jamais rien de méchant. Il ne dit jamais rien de dur. Tout ce qu'il fait et tout ce qu'il dit est doux. Doux et triste comme une fleur, comme de l'eau, comme tout ce qui est tranquille et laisse tranquille. Christian est doux comme une chose. Il y a les choses, les animaux et les hommes. Vacherie de vacherie, hein ? Quand Enberg m'emmène à la synagogue, il me tient par la main avec une grande tendresse. Sa main est si dure qu'on dirait qu'il a envie de m'arracher le bras. Il me bouscule, il me tire et me pousse comme si j'étais le chien de la voisine et venait de patauger dans ses plates-bandes. Ça me fatigue. Je lui dis de prendre sur lui. Il me dit de parler à mon père sur un autre ton. Change de ton. Nous nous mettons à nous battre. Je lui flanque des coups de pied, il me flanque des paires de claques. Tiens-toi tranquille, prie, écoute ce que le rabbi dit. Le rabbi Schneider ouvre son gros livre rouge à tranches dorées. Il lit. « Les impies seront brûlés, comme paille. » Dans ma tête, je vois Christian brûler comme de l'herbe morte. « Priez, Yahvé, plus vous prierez, meilleure sera votre place, plus vous serez près de la reine. Si vous priez terriblement, vous risquez d'être au premier rang quand les impies brûleront. » Ça donne honte. Ça donne hâte d'être une impie. Si Enberg ne m'emmenait pas de force à la synagogue, je n'y mettrais pas les pieds. Ça sent le sang et la cendre dans les synagogues. C'est ça qui les excite. Il y en a qui ont hâte que leur père meure pour ne plus aller à l'école. Moi, j'ai hâte que mon père meure pour être impie tant que je veux. Bande de fous! Dire qu'ils me prennent pour une des leurs. Le rabbi Schneider parle de ceux qui ne craignent pas le vrai Dieu. Il dit que le Dieu des armées a dit qu'il foudroiera ceux qui ne le craignent pas, qu'il ne leur laissera ni racines ni feuillage. Si le rabbi Schneider pense que j'ai peur, il se fourre le doigt dans l'œil. Les frissons qu'il me donne, son Dieu des armées, ce sont des frissons de colère. Plus il en parle, plus je le méprise. Ils ont un Dieu comme eux, à leur image et à leur ressemblance, un Dieu qui ne peut s'empêcher de haïr, un Dieu qui grince des dents tellement sa haine le fait souffrir. Quand le rabbi Schneider parle comme ça, je pense à mon orme. Mon orme se dresse au milieu de notre grande île, seul, comme un avion dans l'air. Ce doit être un impie. Je ne lui ai jamais vu de feuilles. Son écorce tombe en lambeaux. On peut la déchirer comme du papier. Sous l'écorce, c'est lisse, lisse, doux, doux. Quand il vente, ses grandes branches sèches claquent. On dirait qu'il est plein de squelettes. Qu'il me les arrache, mes feuilles et mes racines, leur Dieu des armées. Je n'attends que ça, qu'il me dégrade, qu'il se contente. Je les lui tends, mes feuilles et mes racines. Quand il me les aura enfin arrachées, il n'y aura plus de doute. Je serai sûre qu'il ne me prend pas pour un de ses élus, pour un de ses assoiffés de sang et de cendres, un de ses admirateurs de boucherie. Je pourrai dormir tranquille. Thank you. la claire fontaine, m'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si claire que je m'y suis baigné. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai.
Vous pouvez me retrouver tous les mardis à 9h45 sur Jet FM ou en podcast.
Les maudits sont importants.